L'objectif de cette présentation est d'essayer de faire vivre un peu un sujet qui est parfois un peu difficile et qui, pour les étudiants qui rentrent en P2, pas forcément dans un premier choix d'odontologie, sont parfois un peu surpris par l'anatomie et en fait, on peut arriver, j'espère, à la rendre intéressante. Et à faire vivre donc une salle de classe. Je vais vous parler d'anatomie dentaire, d'enseignement dirigé et de l'utilisation d'écume en amont de cet enseignement pour créer une interactivité. Dans l'anatomie, on essaye de dispenser un savoir théorique, un savoir voir, un savoir penser, et après, bien entendu, une continuité dans les travaux pratiques par un savoir faire. On utilise des manuels qui sont parfois anciens. J'aime bien celui-là parce qu'il est écrit par un Marseillais, mais qui était un Parisien. Mais à l'heure actuelle, les étudiants disposent, ils doivent disposer, pour pouvoir passer correctement un examen, deux documents complets qui sont mis à disposition sur écume et qui sont les références pour les évaluations. Dans ces documents, on insiste beaucoup sur des notions de proportion, de situation, de point de repère. À côté de ces documents complets, ils doivent également disposer d'éléments pour identifier, situer, classer, puis restituer l'anatomie dentaire. Et donc, on a mis au point une collection de documents photographiques qui peuvent être présentés sous forme animée et vidéo, qui se présentent aussi sous forme de planches de ce type. Un savoir-faire qui va savoir-voir et puis déboucher aussi sur une restitution en 2D par le dessin, à la fois dessin de dents de type qu'on appelle suivant des critères académiques, c'est la dent de type statue grecque, qu'ils doivent dessiner, ils disposent de cadres, ils doivent restituer un dessin, c'est une des épreuves des examens, mais ils doivent également mesurer et dessiner une dent naturelle, en respectant à la fois les formes et les dimensions, après l'avoir identifié. Et puis, tout ceci évoluant vers un savoir-faire en trois dimensions dans la séance de travaux pratiques où ils vont construire des anatomies dentaires, coronaires, essentiellement, par cire. Le tout doit être resitué dans le cadre de la fonction de ces unités dentaires. Alors, là, je vais vous parler de l'aspect théorique, je ne vais pas vous parler de travaux pratiques, l'aspect théorique et l'aspect des dessins. Notre objectif sur l'aspect théorique est de développer un enseignement dirigé, mais avec un challenge qui consiste à dire que l'on va travailler en promotion complète. On sait que le cours magistral, ça peut égaler passivité, on sait que l'enseignement dirigé, ça peut sous-entendre activité. Un enseignement dirigé orienté vers une pratique, vers un métier, ça veut dire normalement des petits groupes d'étudiants, et ça veut dire, et c'est en relation avec le fait qu'un grand groupe, et il est difficile de créer une interactivité dans un grand groupe, et normalement on peut facilement créer une interactivité dans un petit groupe, et ceci est vérifié à peu près partout dans tous les domaines. ED, ça veut dire donc normalement petit groupe. ED, ça veut dire dans notre esprit, ça veut dire orienté sur des problèmes concrets, c'est-à-dire toujours attaché un exercice à une problématique concrète, pas forcément clinique, mais concrète. Pour essayer aussi d'effacer la notion, on peut jouer un peu avec la philosophie de l'enseignement de l'odontologie, la notion de dent douleur, enseignement souffrance. Hein, pour nous, on cherche à faire en sorte que la dent soit sourire, et que l'enseignement soit plaisir. Je vais insister sur cette notion de plaisir, j'adore cette notion de plaisir, qui me paraît très intéressante, et cultiver le plaisir d'apprendre, c'est notre mission, et une des possibilités, on a parlé de Serious Game hier, mais pourquoi toujours Serious? La notion de game, la notion de chasse, d'enquête, c'est une notion très très forte dans nos esprits. Et donc, à Marseille en particulier, comme beaucoup, nous voulons cultiver le plaisir d'apprendre et puis nous sommes très orientés clinique. Le problème, c'est que en cours magistral, nous avons à peu près 80 étudiants et qu'il est difficile, sur le plan de l'emploi du temps, de la gestion du volume horaire, c'est beaucoup plus commode de travailler avec une promotion complète que de la diviser en quatre. Diviser une promotion complète en quatre, ça veut dire multiplier des temps d'enseignant par quatre ou diviser le programme par quatre, en gros. Ou la diviser, travailler des petits groupes, c'est ce que l'on fait de façon quotidienne dans la clinique. En clinique, on a à peu près des groupes de 5, 10 étudiants, suivant le type de pratique, et on est dans ce format d'enseignement en petits groupes en clinique. Et ça, c'est, bien entendu, ça marche très très bien, mais c'est difficile de l'appliquer dans les premières, enfin en P2 ou en D1. Et utiliser des groupes de demi-promotion, à peu près une trentaine, c'est aussi avoir nécessité d'avoir un relais de communication, utiliser des sous-groupes d'étudiants avec un ambassadeur qui va faire l'intermédiaire. Ça nécessite une technique d'enseignement qui est un peu complexe et qui, quand même, globalement, fait aussi perdre pas mal de temps. Le problème de la pédagogie interactive, c'est de fixer l'attention. Notre objectif, c'est de fixer l'attention, de faire vivre par le questionnement, c'est-à-dire en posant des questions aux étudiants. Alors, on peut interroger oralement les étudiants tout au long du cours, mais en gros, on va poser une quinzaine de questions à 15 étudiants. Et il est donc... le rendement, en quelque sorte, n'est pas très intéressant. Utiliser des petits groupes avec un relais d'ambassadeurs, ça limite aussi beaucoup le nombre de questions que l'on peut mettre sur la table et poser aux étudiants. Et donc, on va chercher à utiliser un média qui va nous relier à chaque étudiant, en gros, pendant la cour. Tout ceci en promotion complète. Alors, quel média? On peut utiliser un média électronique ou un média de type manuel. Et un exemple, on va afficher cette question à l'écran et demander aux étudiants est-ce qu'il s'agit d'une incive maxillaire, d'une caine mandibulaire, d'une incive latérale maxillaire, et on va leur demander de répondre à cette question. Et donc, le fond de notre méthode va consister à travailler comme ceci. Ceci nécessite qu'en amont, ils aient eu acquis des connaissances. Parce qu'on ne va pas leur poser des questions sur un sujet qu'ils ignorent totalement. Ça veut dire qu'en amont, ils doivent avoir un cours, une information, déposée sur le site ECUM dont vous a parlé Jacques tout à l'heure. Et dans ce site ECUM, on va l'utiliser en préparation à l'enseignement dirigé. Alors, pardon, on a... ici, la rubrique P2, anatomie dentaire, que l'étudiant va pouvoir ouvrir, et il va atterrir sur l'ensemble des documents qui sont déposés. Sur ECUM, par exemple, le bloc concernant l'anatomie, et dans l'anatomie de la canine, concernant la canine, il va trouver différents éléments, à la fois le cours complet, car il doit disposer du cours complet pour les évaluations, de ce type-là. Il va également avoir des documents de type référence qui permet des notions pour les TD d'identification dentaire. Il va disposer de planches vides ou de planches référence pour s'entraîner à faire ses dessins de ce genre-là. Et il va également disposer d'illustrations du cours avec des images qui concernent une illustration, le cours doit apporter quelque chose de plus que ce qui est simplement le document qui est mis en ligne, sinon c'est pas la peine de venir en cours. Et ensuite, il faut aussi que ces étudiants puissent en disposer. Et normalement, ces documents sont déposés après le cours. Avec tout ceci, avec ces éléments en amont, on va chercher donc à créer cette interactivité. Cette interactivité, elle peut commencer, j'ai oublié un petit truc, alors donc dans sur ECUM, on dispose aussi d'agenda du cours, on dispose de lexique, de petites annexes de formation sur l'entraînement à la création du dessin, par exemple, et également de tests, d'autotests, que ce soit des tests d'identification dentaire ou ensuite des QCM du point de vue théorique, des tests d'identification dentaire. Par exemple, ce sont des planches comme je vous ai montré de ce genre-là. Et on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas chercher à aller sur le site pour vous montrer, mais il y a une espèce de chronologie dans le test. C'est-à-dire on demande d'identifier, non, vous êtes trompé, de tromper, essayer de reprendre, savoir si c'est à droite ou à gauche, etc. Donc une espèce de relais sur l'entraînement au test. Sur différentes dents. On utilise également le forum pour donner des informations sur le cours qui est à venir et sur le travail qui doit être préparé en amont. Alors la séance 2D se présente essentiellement sous forme de questionnement. On affiche des questions et on pose des questions aux étudiants. Où se situe la cuspide d'appui de l'arcade maxillaire? Et est-ce que c'est la cuspide linguale, est-ce que c'est la cuspide vestibulaire? Là, la question est de savoir comment on va visualiser ou obtenir les réponses. Alors, on peut utiliser deux types de médias. Alors, si on utilise des boîtiers électroniques, mettons que chaque étudiant est un boîtier électronique, vous avez déjà vu ça un certain nombre de congrès, il peut répondre. Et puis, on a un affichage des réponses qui est immédiat et qui, dans certains systèmes, qui est nominatif. C'est-à-dire qu'on sait exactement qui a répondu, quel étudiant, parce que le boîtier est attribué à un étudiant, et on peut ensuite donc avoir une quantification, garder tout ceci en mémoire pour créer une espèce d'évaluation, même si ce n'est pas l'évaluation définitive de l'étudiant, même si elle n'est pas strictement normative, mais elle est indicative pour l'étudiant aussi. C'est un inconvénient de coût, parce que ça représente à peu près 70 euros par boîtier, ou 100 euros par boîtier. Et on est en train de discuter avec Jacques hier soir peut-être on peut travailler avec les téléphones des étudiants et il y a peut-être des moyens à l'heure actuelle de trouver des systèmes qui seraient intéressants. Mais il y a un autre inconvénient, c'est que dans la salle, il est difficile d'identifier un peu la température des réponses. Et j'utilise depuis de nombreuses années un système qui est beaucoup plus simple, en fait, qui consiste à mettre un indicateur coloré sur chaque réponse. C'est-à-dire que vous avez la réponse blanche, la réponse jaune, la réponse rouge, la réponse bleue et la réponse verte. Et je vous ai mis des petits cartons, parce qu'il ne faut pas croire que vous n'allez pas être interactif. Vous avez mis des petits cartons qui sont à côté de vous, et les étudiants doivent répondre. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Et donc, vous allez me dire, en levant la main avec un carton, si la canine est le plus souvent absente chez l'herbivore, chez le carnivore, chez l'insectivore, chez l'omnivore, ou jamais. Et quand on utilise les systèmes de cartons comme ça de façon régulière avec les étudiants, il y a un gros avantage. D'abord, c'est un jeu. Et le jeu, ça éveille l'attention et la curiosité. Et deuxièmement, ça permet une lecture immédiate de la température. C'est-à-dire que si tous les étudiants répondent correctement à la réponse, on va facilement passer à autre chose. Alors que si on a une discordance, on va s'arrêter et discuter. Donc chaque étudiant dispose d'un jeu de cartes et va répondre en levant, ça, en plus ça il fait un petit peu gymnastique, en levant la main. On peut s'amuser, et j'ai un tropisme très accentué sur l'anthropologie, on peut s'amuser toujours à élargir un petit peu les perspectives, et par exemple, quel rôle de la canine chez le singe? Est-ce que c'est une arme de chasse, de dissuasion? Est-ce que c'est un signe de régime carnivore? Est-ce que c'est un caractère sexuel secondaire marqué dans les groupes polygames? Quand on commence à poser des questions comme ça, on crée de l'animation dans la salle avec les étudiants. Et c'est plutôt une arme de dissuasion que de chasse. Et c'est un caractère sexuel marqué. On a l'avantage d'avoir on est dans un groupe de réflexion sur l'utilisation de l'informatique, de l'électronique, des médias, de la haute technologie pour faire de l'enseignement, mais à côté de cela, ce que je voulais souligner aussi, c'est que l'intérêt de systèmes très très simples, qui coûtent 0 centime, ou très peu, peuvent être en fait très très utiles. Mais il y a un inconvénient, c'est qu'on n'a pas la capitalisation, c'est-à-dire le chiffrage, la quantification, et on ne recueille pas les données, les informations. Donc il faut, à côté de ça, faire des tests, des vrais tests, en début de séance ou en fin de séance avec des petits QCM, des petits dessins, des choses comme ça pour faire de l'évaluation si on veut. L'intérêt aussi pour faire participer les étudiants, une des techniques pour faire participer les étudiants, c'est qu'ils doivent savoir, et ça fait partie de la règle du jeu, c'est qu'ils répondent, que ceux qui ne répondent pas, ben, je vais aller les interroger oralement, pour stimuler le fait qu'ils ne soient pas interrogés oralement. Et deuxièmement, je vais, à ceux qui répondent, ou ceux qui répondent pas, qui je vais forcer un peu à répondre, je vais leur demander de justifier oralement leur réponse. De façon à ce que, bon, il ne s'agit pas simplement des cartons comme ça pour brasser de l'air. La difficulté que l'on a, c'est en dehors de la, comment dirais-je, de la quantification, c'est la gestion du groupe. Quand on fait ce genre de choses avec 20, 30 étudiants, il n'y a aucun problème. Quand on fait ce genre de choses avec 70 étudiants dans une salle qui est au format juste, c'est difficile de tenir en fait 70 étudiants, parce que quand on veut faire de l'interactivité, ça veut dire qu'on crée de la discussion, qu'on crée de l'animation. Ils rigolent, ils sourient, ils se posent des questions les uns à côté des autres. Donc, il faut absolument avoir des déclencheurs, une espèce de code pour qu'ils se mettent d'accord avec eux, pour dire il y a un moment pour la discussion. Et puis, stop, maintenant, on discute de la réponse et il y a un moment pour l'écoute. Il faut arriver à créer un peu ce rythme dans la salle de classe, entre guillemets, parce que sinon, en fait, on est dans le brouhaha. Une autre question pour vous, je ne vais pas être très très long, je vais faire vite, mais une autre question pour vous amuser, c'est que le caractère spécifique de l'homme par rapport au grand singe, c'est le pied. C'est pas la main, parce qu'on a la même main, c'est pas l'utilisation d'outils, parce qu'ils utilisent aussi des outils, c'est pas la bipédie, parce qu'ils sont aussi bipèdes, c'est pas la canine, encore que, c'est la canine, et c'est la canine et le pied, ensemble, quasiment ensemble, et très très tôt. Le pied, c'est très très différent, le pied humain par rapport au pied des primates. Et le pied, c'est très tôt, presque 4 millions d'années, et la canine aussi. Donc, c'est aussi faire de l'enseignement, c'est aussi remettre en perspective une notion d'anatomie par rapport à des problèmes concrets. Et là, j'ai pris un problème concret qui n'est pas un problème clinique. C'est pour ça que je dis les problèmes concrets ne sont pas toujours cliniques. Un problème concret, c'est un problème concret d'anthropologie, par exemple, parce que c'est des choses qui intéressent. Nos étudiants, ils ne sont pas complètement idiots, pas incultes, et au contraire, et il faut chercher à aussi ouvrir un peu leur regard. Il faut derrière cela, on peut faire à chaque cours, je ne sais pas la bonne fiche là, mais on peut donner une fiche d'évaluation, en fait, d'auto-évaluation que l'étudiant peut remplir sur les différentes questions qu'on a affichées. Là, ça concerne un autre cours, là, cette fiche-là, mais c'est un système aussi qui permet de récupérer des informations. Et ensuite, on peut essayer d'évaluer ce que l'on fait, par exemple, par rapport au retour des étudiants, les évaluations par les étudiants. Alors, par exemple, une première question, c'est est-ce que vous utilisez l'ENT et ECUM? Les étudiants ici sont des étudiants de P2, ils répondent à 90% qu'ils utilisent. Et après, on peut chercher à évaluer un peu le contenu, et l'évaluation, que je ne vais pas détailler pour ne pas vous faire perdre de temps, c'est aussi une nécessité et un impératif pour pouvoir réagir par rapport à ces évaluations. Mais en même temps, il faut faire attention à la... Je vais juste aller chercher un exemple sur l'évaluation des examens. On a une forme d'enseignement qui est une forme de TD d'identification, où les étudiants se retrouvent en petits groupes, à ce moment-là, une dizaine, on leur donne des dents naturelles et ils doivent les identifier. Sur cet enseignement, les formes et après ils doivent les identifier, puis ils sont notés. Et ils sont notés et ils réidentifient en fait des dents jusqu'à ce qu'ils réussissent. Hein? Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont 100% de réussite. Il n'y a jamais d'échec, puisque au bout de ils ne font que refaire le TD éventuellement, mais sinon ils réussissent. Et l'évaluation qu'ils ont par rapport à ce mode de contrôle et de 94% positif. Alors que, donc, avec 100% de réussite en première session. Alors que l'évaluation qu'il donne sur le QCM d'anatomie dentaire, où ils doivent répondre sur des questions plus difficiles et plus précises sur le plan théorique, ils disent que ça ne leur plaît pas trop. Hein. C'est à 43%, ce n'est pas du 90%. Ils n'aiment pas trop ce mode de contrôle. Mais aussi, c'est parce qu'il y a 30% qui passent la deuxième session et il y a 6% de redoublement parce qu'on a des critères d'exigence aussi qui sont forts et que par conséquent, les évaluations des étudiants, il faut aussi les remettre dans leur contexte. Il faut donc beaucoup contextualiser toujours ce que l'on enseigne et ce que l'on utilise comme outil pour évaluer nos enseignements. Jacques avait fait un petit test stat pour essayer d'évaluer si les étudiants qui avaient des bonnes notes au QCM étaient des étudiants qui allaient plus souvent travailler sur ECUM. Alors la réponse est oui, même je ne vais pas détailler l'interprétation stat de son test, mais il y a globalement les bons étudiants qui vont souvent sur ECUM, ils sont plutôt avec de bonnes notes, sont plutôt dans cette zone-là. Mais aussi, c'est souvent les bons étudiants, ceux qui sont motivés, ceux qui sont plus... Donc, ce n'est pas forcément la relation de l'impact de la formation par ECUM sur le résultat. Mais on peut penser quand même que le fait de créer de l'interactivité, créer de la vie, ça crée de la mémorisation, ça crée des liens qui restent plus puissants au niveau de ce que l'étudiant conserve comme acquis. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je ne sais plus ce que j'ai mis, mais de toute façon, on essaye de faire participer avec ce type de méthode. On essaye de motiver la majeure partie de nos collègues. Voilà, merci.
Donc, très rapidement, l'expérience de Lille, c'est très modeste ce que je vais vous présenter, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que nous avons mis en place un tutorat. Et malheureusement, je suis le seul à le réaliser à Lille, et je vous en comprendrai les raisons par la suite. Donc les avantages du tutorat étudiant, eh bien, c'est que les étudiants ne sont pas pris par un lieu géographique, et ils ont une certaine liberté donc temporelle. Ils sont donc par petits groupes, donc avec un étudiant d'une année supérieure. Alors ils prennent la responsabilité de leur formation, ce qui va les habituer par la suite à prendre la responsabilité de leur formation en formation continue quand ils seront chirurgien-dentiste. Et puis on a remarqué aussi que ça crée des liens forts entre les tutorés et les tuteurs. Ensuite, le fait d'enseigner pour les tuteurs, enfin de les accompagner dans l'enseignement, fait que ça leur apporte beaucoup de bénéfices. Par exemple, vous verrez, c'est de l'occlusion, c'est toujours un sujet tabou. Les tuteurs me disent, l'année dernière, monsieur, j'avais pas très bien compris, mais maintenant, le fait que je sois tuteur, je comprends beaucoup mieux ce que j'enseigne et ce que vous m'avez enseigné. Et elle prépare l'enseignement de demain, parce qu'on est convaincu que l'enseignement de demain ne se passera plus dans des amphithéâtres de 500 ou 600 personnes, mais on commence déjà à voir en filigrane l'enseignement de demain qui se fera sous forme virtuelle. Et puis, elle crée aussi des vocations d'enseignants. Je vois, ça fait 3 ans que j'ai mis ça en place, et je vois arriver maintenant des étudiants en travaux pratiques qui viennent épauler nos enseignants. Alors, pour valider le tutorat, nous avons mis en place les cours en cours d'occlusodontie de P2 et de D2. Ceci a été transformé, avant c'était les D3, mais vous savez qu'avec le LMD, maintenant, on a modifié pas mal de choses. Et les cours de D1, je les ai gardés magistraux, de façon à ce que je puisse faire la différence entre les deux. Donc, les étudiants de P2 ont ce qu'on appelle les cours de grammaire de l'occlusion, c'est-à-dire ça leur apprend à manipuler un articulateur, donc c'est toujours un petit sujet tabou. Et si je vous posais la question, est-ce que c'est que la pente condylienne, l'angle de Bennett et le déplacement latéral immédiat, bon voilà, hein, j'ai rien dit. Donc ces étudiants de tuteurs sont, j'en ai une cinquantaine, ont des petits groupes de 5 ou 6 étudiants, et ces 5 ou 6 étudiants vont sur le campus numérique de la fac et ensuite, avec leur tuteur, eh bien, leur pose les questions qu'ils ne poseraient peut-être pas en amphithéâtre. Ensuite, ces tuteurs sont validés en fonction de la réponse des enseignants. C'est-à-dire que je réunis les groupes, ensuite, les étudiants passent au tableau, me dessinent la pente condylienne, l'angle de Bennett, enfin tout ce que vous connaissez, et puis les tuteurs sont évalués en fonction de la réponse de ces étudiants. Je suis très surpris parce que mes notes fluctuent entre 15 et 20. J'ai même des 20, j'aurais même pu mettre des 21 par moment. Alors donc les étudiants de D2, eux, c'est différent. Donc les étudiants de P2 vont sur le campus et vont avoir le PowerPoint et vous allez voir lequel. Et ensuite nous avons transformé ce PowerPoint avec le programme Scénari. Et les étudiants de D2 vont donc sur le campus et ont le cours qui a été enregistré en 98, donc un cours en direct en 2008, un cours en direct, donc avec les E, les A, les O, bon, avec les donc avec un montage qui leur permet de ne pas se farcir tout le cours pour qu'ils ne puissent pas s'endormir devant leur écran d'ordinateur. Et ils ont donc des petites étapes sur lesquelles ils peuvent cliquer. Ensuite, ces étudiants de D2 encadrés par des D3 sont réunis par petits groupes de 10 et ont deux cas cliniques, que je vous montrerai après très rapidement, deux cas cliniques qu'ils doivent donc évaluer, donc faire le diagnostic et le plan de traitement. Et en fonction de ces réponses, les tuteurs sont évalués et en plus les réponses des étudiants est notée sur 6 et fait partie et donc de l'examen final. Ce qui fait que les tutorés et les tuteurs sont motivés l'un et l'autre pour que ceci fonctionne. Alors nous avons envisagé de pouvoir rétribuer les tuteurs, mais comme j'en avais une cinquantaine, le président de l'université m'a dit « écoute, tu ne peux pas trouver autre chose ». Donc on a fait ça en enseignement complémentaire, parce qu'il faut toujours une carotte, et la carotte c'était un enseignement complémentaire. Alors en P2, ça m'a demandé un gros travail, et je pense que c'est ça qui rebute les enseignants. Ce n'est pas seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que les enseignants ne veuillent pas diffuser leurs connaissances, c'est que c'est le travail que ça représente. C'est plusieurs week-ends pour remanier le PowerPoint. Parce que quand on est en cours magistral, voilà par exemple j'ai pris la pente condylienne que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Donc en cours magistral, on a donc ce schéma et l'enseignant commente ce schéma. Donc mes enseignants me disent, t'inquiète pas, moi je vais mettre mon cours sur le campus. Mais sur le campus, ils vont mettre ceci. Ce qui fait que même si l'étudiant a participé au cours, ça ne lui dit plus rien, ceci. Donc il faut modifier et faire ceci. Et ça demande un travail considérable. Ensuite, les étudiants m'ont dit, vous savez, bon, moi j'aime bien les couleurs comme tout un chacun, ils m'ont dit, les cartouches d'imprimante, ça les file. Donc on a trouvé une autre solution. Donc j'ai eu recours un informaticien de l'université de Lille 2, parce que j'étais incapable, ça bon, c'est moi qui l'ai fait, mais incapable de m'occuper de Scénarii, parce que c'est un programme assez lourd, et puis bon, on a d'autres choses. Donc voilà, et ils vont, donc là on est sur le campus numérique de la faculté, et ils peuvent, donc voilà par exemple la cinématique mandibulaire, mouvement de propulsion, ils ont l'animation qu'ils auront bientôt en 3D. Évidemment, quand ils sortent sur imprimante, ils n'ont pas l'animation, comme vous avez bien compris. Ah, donc, ils peuvent imprimer. Donc, voilà. Et ça ressemble tout à fait à un article. Quand ils sortent, ça ressemble à un article. Voilà donc ce qu'ils peuvent avoir maintenant sur Scénarii. Ensuite, le cours de D2, c'est le diagnostic et le traitement du dysfonctionnement crânio-mandibulaire. Donc il a été filmé en direct à la faculté avec les problèmes que vous pouvez le voilà. Donc avec un index, On va dire par exemple sur n'importe quoi. Je vais cliquer dessus. Ok. Donc là, on est sur le campus de la fac. Voilà, donc vous pouvez ensuite. Vous voyez donc les hésitations. Il est évident que ce cours est enregistré à l'instant T, mais à l'instant T plus X, il faudra fatalement donc le revoir. Et donc on a envisagé donc ce PowerPoint dont on a parlé tout à l'heure, que l'on puisse commenter. Alors, ceci ne m'a pas demandé de travail particulier, mais ça a demandé un travail particulier à l'Université de Lille 2. Parce que la cellule CRI de l'université de Lille 2, eh bien, c'est elle qui a fait le montage, c'est elle qui a fait tout ceci, et je ne m'en suis pas du tout occupé. Donc, les étudiants sont évalués. Ensuite, comme je vous l'ai dit, donc il y a une fiche d'anamnèse, une fiche aussi clinique, et évidemment, ils doivent mettre des croix au niveau du diagnostic, au niveau du traitement. Alors, en guise de conclusion, pour être très rapide, les étudiants étaient réticents au départ. C'est-à-dire que ce qui m'étonne beaucoup, c'est que les étudiants veulent absolument des cours magistraux, ne veulent pas de cours virtuels, et ils ne viennent pas en cours. Alors je me suis posé la question en tant que responsable de la faculté, pourquoi dépenser autant d'énergie en cours, alors qu'il y a 5, ou 6, ou 10, ou 20 personnes en cours, c'est-à-dire qu'on voit que ça s'amenuise au fil du temps. En P2, on a 90% de l'amphi, en D1, 80%, et ça se termine. Alors, le vendredi à 17h, en D3, il y en a une dizaine, même en prothèse. Même fait des cours de prothèse faits par des enseignants remarquables comme Picard et autres. Donc, on s'est dit, c'est une perte d'énergie, mais les étudiants veulent toujours avoir un prof qu'ils ne vont jamais voir. Mais ça leur a plu, et le fait d'être libre, de ne pas se lever à 8, parce que les cours avaient lieu à 8h du matin, de ne pas se lever à 8h du matin, d'être libre et puis d'avoir leur formation et de se recréer par équipe. J'ai dit, vous réunissez où vous voulez, dans une chambre, au bistrot, n'importe où, mais il faut que ça tourne. Et ça tourne bien. Alors, il faut bien sûr une salle informatique à la faculté, parce que d'après nos statistiques, il y a un gros 5% d'étudiants qui n'ont pas le haut débit chez eux. Quand je dis chez eux, c'est chez les parents. Il y en a 10% qui ne l'ont pas dans leur chambre et 5% qui ne l'ont pas chez les parents. Ensuite, les préparations des PowerPoint pour le mettre sur le campus sont très chronophages. C'est plusieurs week-ends, mais que vous connaissez. Alors, le présentiel pour évaluer les tuteurs me demande 5 fois plus de temps qu'un cours. Alors, les enseignants me disent, oui, mais le présentiel, c'est par petits groupes, et évidemment que c'est beaucoup plus excitant de faire un cours pour les enseignants devant un amphi de 100 personnes que devant 6 étudiants. Mais non, parce que je peux vous avouer que le présentiel d'une heure avec mon petit groupe d'étudiants est beaucoup plus fort qu'un présentiel de 5 ou 6 heures dans un amphithéâtre de 70 ou 80 personnes. Et ça, les gens ont des difficultés à le comprendre. Ensuite, ça se termine par un articulateur, on manipule l'articulateur, on leur montre comment ça fonctionne. Et puis, l'enseignement numérique, alors là, c'est que je me lève toujours quand on parle avec nos ministères de tutelle, c'est que, évidemment, on peut faire un enseignement, là maintenant, pour 3 milliards d'individus. Ça nous dispense d'avoir des enseignants supplémentaires dans nos facultés et de ne pas augmenter le numerus clausus de nos enseignants, n'est-ce pas ? Parce qu'on augmente celui des étudiants, mais pas celui des enseignants. Mais ce qu'il faut, c'est absolument un présentiel, et ce présentiel, c'est par petits groupes, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est beaucoup plus bénéfique, et ce présentiel demande beaucoup plus d'enseignants. Et ça, c'est là où on se leurre. entendu encore Mme Pécresse quand on est allé la voir, qui a dit qu'il faut absolument faire un enseignement numérique. Quand vous lisez ce que dans le LMD, ce qui était prévu, c'est 50% de présentiel et 50% de numérique, oui, et le 50% de présentiel, il faut multiplier par 5 le nombre d'enseignants. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention.
Donc moi, je vais vous présenter en fait un projet qui est en cours. Il y a une partie, vous verrez qu'il y a une partie qui a été réalisée, puis une autre partie qui devrait être réalisée l'année prochaine. C'est un projet, et vous le voyez par en fait la diversité d'intervenants qu'il y a au niveau de cette page. Vous voyez qu'il y a moi-même qui est de la faculté, il y a tout le reste de mon équipe qui est aussi de la faculté, il y a aussi le service d'universitaire de pédagogie, et puis d'autres intervenants pédagogiques. Et ça veut dire une chose, en fait, rien qu'en regardant ça, ça veut dire que ce n'est pas des projets qui sont très simples, c'est en particulier dans la réalisation des cas cliniques, et c'est des projets qui vont nécessiter plusieurs personnes qui, en fait, ont des modes de réflexion et on va attribuer des valeurs à des mots qui ne seront pas les mêmes en fonction de nos origines professionnelles. Ce qui fait que c'est en gros ce qui fait une partie de la difficulté de ces différents projets de cas cliniques. Et on l'a vu un petit peu hier, où on a vu quand même beaucoup de présentations très variables. On voit que d'un côté, il y a une vraie professionnalisation des cas cliniques. Je pense en particulier aux urgences, hein, comme ça a été traité hier avec le logiciel Pulse. Et on voit que de notre côté, les universités, on n'est pas manifestement dans cette dynamique professionnelle. C'est plutôt de l'enseignement. Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire autrement pour l'instant? Alors, je ne pense pas qu'on aura de réponse aujourd'hui, mais probablement qu'avec le temps, ça va arriver. Donc, dans la réalisation de ces cas cliniques, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la problématique. Dans les cas cliniques, c'est toujours pareil. On va parler de situation linéaire ou non linéaire. Linéaire, ça veut dire que le parcours de l'étudiant est fléché et il doit réaliser un parcours bien défini. Donc c'est relativement simple puisque finalement on va lui suggérer la méthode de réalisation du cas clinique. Ça peut être une réponse immédiate. En tout cas, d'une manière immédiate, c'est une réponse qu'on peut tous apporter avec des outils relativement simples. Évidemment, la situation idéale, c'est la réalisation non linéaire, c'est-à-dire que il y a plusieurs parcours possibles. On sait très bien, nous, dans notre clinique, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de résoudre un cas clinique. Donc, il y a plusieurs parcours possibles. Ces différents parcours, certains sont valables, avec plus ou moins avec une valeur plus ou moins importante. Et on peut dire, bon, ok, tu as résolu ton cas clinique. Dans une situation clinique, tu l'aurais aussi résolu. Mais tu aurais été plus rapide en le faisant autrement. Et donc, ça, dans ces parcours non linéaires, c'est des situations qu'on doit envisager. Et donc, en fait, le point où nous en sommes, nous, c'est qu'au niveau du parcours linéaire, le problème est résolu. Au niveau du parcours non linéaire, ce n'est pas encore tout à fait résolu. Et on va voir pour quelles raisons. Le public visé, c'est les étudiants en cinquième année. Donc, c'est juste, en fait, avant l'entrée en clinique pédiatrique. Et donc, il y a des connaissances théoriques qui sont bien réelles. Et ensuite, c'est la mise en pratique. Donc, on passe, en fait, de la théorie à la pratique. L'autre question à se poser, c'est quelles compétences l'étudiant doit acquérir dans ces cas cliniques. Alors, il y a la démarche, ça c'est typiquement du cas clinique, c'est-à-dire que quelle démarche on va faire pour la résolution de ce cas clinique. Par contre, acquérir des réflexes, ça c'est sur des procédures qui vont être très répétitives, et c'est exactement l'exemple qu'on a eu hier par rapport au logiciel Pulse, hein, c'est acquérir des réflexes dans une situation bien précise. Donc, un patient arrive aux urgences, on lui pose une voie veineuse, on mesure les paramètres vitaux, etc. etc. C'est acquérir des réflexes dans la prise en charge de ces patients. Par contre, l'apprentissage de procédures, c'est plutôt du rôle des TP ou des TD, enfin, en tout cas chez nous, et peut-être pas tellement de ces cas cliniques, parce qu'on verra que c'est quand même assez lourd à mettre en œuvre. Nous avons aussi décidé que ça devait être des cas cliniques qui soient à la fois formatifs et évaluatifs, c'est-à-dire qu'on va former les étudiants à la démarche du cas clinique, mais on va aussi, à un moment donné, qui sera un temps différent, on va les évaluer selon la même procédure. Et l'avantage de ce système-là, c'est qu'en fait, le processus d'évaluation, ils se sont déjà entraînés dessus. Ils n'ont pas besoin de découvrir le processus d'évaluation au moment de l'évaluation. Et enfin, il faut garder à l'esprit que Généralement, on a des objectifs étudiants qui sont différents des objectifs enseignants. Nous voulons leur apprendre une procédure ou une démarche. Eux, ils veulent une bonne note. Et il faut essayer finalement de faire coïncider ces deux. Alors, j'ai beaucoup aimé la solution de Jean Ortlib tout à l'heure où vous allez faire votre problème jusqu'à ce qu'on réussisse. Parce que finalement, alors je trouve que c'est intéressant à condition qu'à chaque fois l'interrogation soit différente. Alors que là, j'imagine ils refont à chaque fois le même TP et c'est en fait c'est très lourd de. C'est d'autres dents, d'accord, ben, c'est très bien. Voilà. Voilà. Donc, alors ça c'est la situation initiale. C'est ce que j'ai donné moi aux ingénieurs pédagogiques. Je leur ai donné ça. Je leur ai dit voilà, j'ai un patient de 9 ans qui arrive à la consultation. Il est accompagné de ses parents. Il arrive avec tout son passé dentaire parce que en fait on le remet dans la situation du cabinet. C'est un patient qui est suivi habituellement dans le cabinet. Et donc voilà, qu'est-ce que tu vas faire avec ce patient? Avec ce patient, moi ce que j'ai envie qu'il me dise au début, c'est je veux lui demander son motif de consultation et je veux que tu me fasses un questionnaire de santé pour savoir comment va ce patient, etc., etc. Voilà, on va ensuite, l'étape suivante c'est les investigations cliniques, examen du visage, examen de la bouche. On voit qu'on peut ajouter des vidéos à ce moment-là, au moment de l'examen. Lorsque l'étudiant va demander... En fait, je voudrais bien regarder sa déglutition et il va y avoir des vidéos de déglutition qui vont apparaître. Donc ça peut être une déglutition normale ou anormale, peu importe. Et les résultats des investigations cliniques, des photos du visage, des photos en bouche. On va voir aussi un petit jeu, mais dont je parlerai un petit peu à la fin, un peu plus. Et on voit que c'est un patient aussi qui suce le pouce. En fonction des différents éléments que j'ai pu voir en clinique, parce qu'il y a aussi d'autres photos cliniques, je vais décider que j'ai besoin d'un cliché panoramique, parce qu'on a beaucoup de caries, donc si l'étudiant me demande un cliché panoramique, je vais lui donner. Et ensuite, en fonction de tous ces éléments, on va établir un diagnostic dentaire, muqueo-occlusal, etc. Et on va lui demander d'établir un plan de traitement. Et on va lui demander d'établir ce plan de traitement d'une manière chronologique. En clair, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est qu'est-ce que tu vas faire à la première séance? Qu'est-ce que tu fais à la première séance? Qu'est-ce que tu fais à la deuxième, à la troisième, etc. Alors ça, c'est la belle théorie, c'est ce que nous, on a envie de faire, et dans lequel il faut donc définir la cible, on l'a fait. On va fixer les résultats attendus, c'est-à-dire qu'est-ce que l'étudiant sera capable de faire à l'issue de ce cas clinique, donc c'est principalement dans la démarche. Déterminer, alors c'est là où ça commence à être un petit peu compliqué, mais où on est encore un petit peu impliqué, c'est déterminer les preuves acceptables de la résolution de ce cas clinique. Qu'est-ce qui va faire dire, c'est bon, ok, tu as bien répondu à la question. Et ensuite, construire le dispositif, ça c'est en termes très pratiques, c'est qu'est-ce qui va servir à quoi, où est-ce qu'on va mettre les QCM, où est-ce qu'on va mettre le jeu, etc. Donc ça, ça correspond à la modélisation, et c'est là où les ingénieurs pédagogiques ont toute leur place. Alors vous voyez, ça c'est ce que vous rappelez, c'est ce que je vous ai donné tout à l'heure, et ça c'est ce qu'ils m'ont donné. Donc ça c'est une demi-journée de réflexion avec 3 ingénieurs pédagogiques, un expert et un expert de la discipline. Et encore, ils m'ont dit heureusement qu'il n'y en a qu'un seul, parce que sinon personne n'est d'accord et c'est encore pire que tout. Donc c'est assez compliqué, mais finalement, je pense qu'une fois, quand on l'a fait une fois, après le problème finalement est réglé parce que la logique est toujours à peu près la même. Et en gros, vous voyez, il y a 3 colonnes. La première colonne, c'est tout ce qui va constituer les indicateurs. Alors ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure, parce que c'est vraiment un des points clés de ces cas cliniques. Les indicateurs, c'est qu'est-ce qui fait qu'une étape est bien réalisée. Et vous avez ici le parcours non linéaire, c'est-à-dire que ça, c'est la situation initiale, et puis ensuite, il peut partir d'un côté ou de l'autre, mais il faudra que, de toute façon, il ait réalisé toutes les étapes obligatoires, et les indicateurs vont se retrouver au niveau de ces nœuds, ici. Et donc, ces nœuds sont des sortes de concentrateurs dans lesquels, à chaque fois qu'une étape est remplie, on arrive sur ce concentrateur, et là, on va dire si, OK, l'étape est remplie ou pas bien remplie. Donc, en clair, ici, on a, si vous voulez, l'investigation clinique. Est-ce que l'investigation clinique a été correctement remplie? Alors voilà, donc les investigations cliniques. On va juger ici du cheminement, c'est-à-dire de quelle manière quel chemin il a emprunté pour ces investigations. Et est-ce qu'il les a toutes faites? Il y a un deuxième indicateur qui est sur les pathologies qu'on va dépister d'une manière clinique. Donc on ne parle pas de radio, on ne parle pas d'examen complémentaire. Qu'est-ce que tu identifies comme pathologie et quel doute tu peux avoir en fonction de cette situation? Et on va les positionner sur un schéma dentaire, qu'on verra un peu tout à l'heure. Et à partir de ces éléments-là, on va compléter les informations. Alors c'est là où arrivent les examens complémentaires, les radios, les rétroalvéolaires, les panoramiques, les examens biologiques. Et ce qui va nous conduire à un quatrième indicateur, qui sont les diagnostics, là aussi. Alors ces diagnostics sont choisis dans une liste. Alors c'est pas très élégant comme système, on est obligé de ruser un petit peu dans la présentation pour qu'à la fois ce soit un peu ludique, mais aussi que toute l'information soit là, mais qu'on ne suggère pas trop non plus aux étudiants. Malheureusement, on n'a pas résolu ce problème de suggestion. Et enfin, on va lui demander une stratégie de prise en charge. Et éventuellement, Non, c'est pas bon. Éventuellement, on peut aussi demander des productions écrites. Donc à ce moment-là, ça ne sera pas des corrections automatiques, ce sera des corrections qui seront manuelles, mais qui vont être extrêmement limitées par rapport à un cas clinique simple. Il est évident que, j'en ai pas tellement parlé au début, mais ce qui sous-tend tout ça, c'est qu'on a envie qu'il fasse beaucoup de cas cliniques et on a envie qu'on passe pas trop de temps à les corriger. Il y a beaucoup de ça quand même. Alors ce qu'on sait intuitivement, enfin qu'on voit là-dedans, c'est que le premier cas clinique va nous prendre beaucoup de temps. Les autres cas cliniques, et c'est du vécu, nous prennent quand même beaucoup moins de temps à réaliser, ce qui est quand même assez intéressant. Et l'évaluation, évidemment, on a envie aussi d'un peu d'évaluation, mais qui ne sera pas réalisée à chaque fois. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer quelles activités on peut utiliser. Alors c'est à titre d'exemple, on ne peut pas montrer toutes les activités qui sont réalisées. Il y en a en particulier que je ne vais pas vous montrer parce que je ne suis pas très content du résultat qu'on a eu, parce que justement je trouve qu'on suggère un peu trop. Et moi, ce que j'ai demandé aux ingénieurs, c'est je ne voudrais pas qu'on suggère trop, mais finalement on n'a pas su pour l'instant beaucoup me donner de solutions. Alors les outils qu'on utilise, c'est Opal, mais je pense qu'il y a d'autres suites qui peuvent être utilisées. Ça fait un petit peu peur, mais je crois que... Bon, nous, on a eu, notre équipe, nous avons eu une journée de formation sur Opal, et maintenant, on est autonome sur ce système-là, donc on n'est pas des cracks en informatique, on ne passe pas notre journée sur l'informatique, et on ne l'utilise pas tous les jours non plus. Et finalement, avec le recul, je peux dire que c'est quand même une suite qui est assez simple à utiliser. Alors par contre, un autre outil que j'utilise pas du tout, ça c'est du ressort des ingénieurs en pédagogie, c'est Topaz qui lui va nous permettre en fait à partir des modules qu'on a fabriqués dans Opal, ça va nous permettre de les organiser d'une manière non linéaire. C'est l'aspect non linéaire du problème qu'on va retrouver ici. Et enfin, on peut utiliser des jeux sérieux. On en a vu hier qui était très joli. Le mien est un petit peu moins joli, mais il a une vraie fonction pédagogique dans ce qu'on pouvait demander. Et surtout, il nous fait, d'une manière d'ores et déjà, en fait, il nous fait gagner beaucoup de temps, parce qu'on n'a plus du tout à corriger ce genre la constitution des schémas dentaires, parce qu'en odontologie pédiatrique, c'est une vraie question en fait, qu'on pose aux étudiants. Alors, un premier exemple, c'est le QCM, c'est dans les diagnostics. Dans les diagnostics, en fait, vous avez les images qui sont au milieu, qu'on peut un petit peu agrandir comme vous allez le voir prochainement. Et à partir de ces différentes images, ça peut être des radios, ça peut être des vidéos, ça peut être c'est des photos, et bien on va demander à l'étudiant qu'est-ce que tu identifies comme pathologie dentaire chez ce patient. Donc là, vous avez vu, il y a les caries, les troubles de l'émail, enfin, en fait, on liste les pathologies. Donc ce que j'aime pas trop là-dedans, c'est qu'il y a un effet suggestif, évidemment, hein, mais pour l'instant, on n'a pas tellement su résoudre ce problème-là. Il faut introduire des distracteurs, c'est-à-dire qu'il faut, en fait, il faut tout mettre, hein, en clair. Et c'est pour ça qu'on essaie beaucoup de scinder les questions, de diviser les questions, pour qu'on n'ait pas des listes non plus de 40 items à proposer aux étudiants. Et on va faire pareil pour le problème dentaire, pareil pour le problème occlusal, et pareil pour le problème muqueux. Alors ici, c'est le jeu dentaire. Donc vous voyez, le jeu dentaire, c'est un jeu qui a été élaboré par notre structure universitaire de pédagogie. Pour être honnête, en fait, on est tombé au bon moment. C'est-à-dire qu'on est tombé au moment où vous avez des crédits et où ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et on a répondu à un appel à projet qui n'était absolument pas du tout ça. Mais en parlant dans l'entretien de sélection, on a dit, ben oui, nous, on aimerait bien avoir automatisé en fait la saisie de ce schéma dentaire parce que ça nous fait à peu près 4 heures de correction par semaine. Et c'est quand même énorme. Et on aimerait bien avoir... pouvoir résoudre ces cas cliniques. Alors voilà, ça c'est le programme, enfin en tout cas l'application en version bêta, mais qui est déjà utilisée auprès des étudiants. Je leur dis toujours qu'ils sont des crash testeurs. Heureusement, ils finissent avec de bonnes notes. Et donc, vous voyez, ça se présente en fait, il y a une petite instruction en haut du jeu. Donc il y a ensuite un grand espace pour les images au milieu, qu'on peut faire défiler par les flèches qu'on ne voit pas ici. Ça c'est un petit bug de la version initiale. Et en faisant défiler ces images, l'étudiant va en fait constituer le schéma dentaire du patient qu'il a sous les yeux, avec en vert ici les dents permanentes, en rouge les dents temporaires, en jaune vous avez tout ce qu'on peut ajouter comme dents surnuméraires, et avec un placement des dents à la fois en vertical et à la fois en horizontal, pour laquelle ils ont des instructions extrêmement précises. Et presque le plus difficile pour nous, c'est déjà ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement. Naturellement, on se dit, bon, ben, on va placer à peu près la dent là où elle est. Mais finalement, il ne faut pas la placer à peu près, puisque lui, le logiciel, il va analyser exactement la position de la dent. Donc, il y a une définition très précise pour la position des dents. Par exemple, pour donner un exemple, pour les dents qui sont en situation intermédiaire, comme ici, ben, on va demander que la dent soit visible et qu'elle soit en situation de... qu'elle ne soit pas en situation de fonctionnelle, en fait. Donc, elle est visible, mais pas en situation fonctionnelle. Donc voilà, on place les différentes dents. On a ici un compteur qui est réglable et qui en fait ne s'arrête pas jusqu'à la fin du jeu. Et donc ce compteur va continuer, y compris, alors une fois que l'étudiant aura rempli son schéma dentaire, on va lui proposer tout de suite une solution. C'est-à-dire qu'il va avoir la solution devant les yeux. Et on va lui demander sur la solution de placer un certain nombre de pathologies. Alors les pathologies qu'on a demandé de placer, ce sont les caries ou les obturations qu'on peut qualifier de durables, provisoires, pardon. Et l'autre pathologie, on pourrait discuter sur les termes, mais l'autre pathologie qu'on leur demande de placer, c'est les anciennes obturations, ou les obturations dites durables qui sont déjà placées avant. Voilà, donc là c'est la solution, et là on va lui demander de placer les caries. Alors on peut modifier à tout moment, enfin à partir du moment, avant de valider, on peut tout modifier. C'est-à-dire quand on a fait les schémas dentaires, si on n'est pas content, mais on peut enlever les dents et les remettre ailleurs. Et pareil pour les pathologies, on peut les placer, les enlever, on peut rajouter une carie sous un amalgame, ou on peut au contraire l'enlever. Et ensuite on va valider notre schéma dentaire. Après avoir, on peut toujours, à tout moment, on peut passer voir les différentes situations cliniques, on valide. Et là, on a alors la présentation est un peu différente, maintenant elle est un peu plus claire pour les étudiants, parce que même moi, là, je n'y comprenais pas grand-chose. Et il peut voir ce qu'il a fait, quelle était la correction, et ensuite on va lui proposer un score. Donc un score, là aussi, on peut varier la proportion entre les pathologies et le placement des dents. Par contre, on ne peut pas tellement modifier la logique de ce truc-là pour l'instant. Voilà. Un dernier exemple, alors ça c'est la catégorisation, c'est assez intéressant. Alors on l'utilise au niveau du plan de traitement. Et toujours pareil, il peut faire défiler les photos. Et on va lui demander de dire qu'est-ce que tu fais à la première séance, qu'est-ce que tu fais à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, qu'est-ce que tu dois faire dans les 6 mois après la première consultation, et qu'est-ce que tu ne feras jamais. Parce que, donc ça, c'est les distracteurs, en fait. Hein. Par exemple, dans ce cas-là, on lui dit, il faut que tu fasses une interception de classe 2. Non, il n'y a pas besoin de la faire, puisqu'on n'est pas en classe 2. Donc, ça fait partie des distracteurs, et donc, la dernière case, c'est jamais. J'aurais pas besoin, normalement, de faire ce traitement-là. Voilà. On peut aussi faire de la catégorisation avec des photos, c'est-à-dire qu'on présente une série de photos et on va lui demander de placer, par exemple, dans l'anomalie de l'émail ou l'anomalie de la dentine pour la suite. Alors, en conclusion sur ce cas clinique, je crois que finalement, on s'est assez peu posé la question de pourquoi est-ce qu'il fallait le faire et comment est-ce qu'on le fait. Mais pourquoi, je crois que très clairement, c'est les gens qui se sont investis là-dedans, c'est des gens qui avaient quand même une certaine appétence pour l'informatique. Et pour donc je crois que pour l'instant, on en est encore là. Mais c'était pareil au début pour les PowerPoint. Hein. Je ne sais pas si vous en rappelez, tous, on est tous passés au PowerPoint. Et au début, c'était, ben non, moi, je vais rester avec mes diapos, je veux pouvoir trafiquer mes diapos. Non, mais finalement, je crois qu'on ne s'est même pas aperçu du moment où ça a changé, tellement ça a été rapide. Même les ultras ont vendu leurs diapos. Alors après, moi, dans les perspectives, je pense que c'est pas mal ce qu'on a vu hier, en fait, hein, c'est l'intégration dans un environnement virtuel. Alors oui et non, je crois que oui, il y a certaines situations qui seront tout à fait possibles. Par contre, on sera quand même obligé de garder des photos et des photos réelles et des films réels, parce que voir une carie en virtuel ou voir une carie sur une photo réelle, c'est quand même pas du tout pareil. Et je pense qu'il doit y avoir un moment où on aura un point de rencontre, mais on gardera quand même une certaine partie du travail qu'on a déjà fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Donc avant de passer quelques extraits du DVD, puisque moi j'ai choisi de fabriquer un DVD, je voudrais faire quelques remarques. Mais bon, comme j'interviens en dernier, je vais en fait reprendre un certain nombre d'items qui ont déjà été abordés. Alors est-ce qu'on s'achemine vers un enseignement de MAD? Bon, on pourrait après ça, effectivement, force est de constater aujourd'hui que le nombre d'étudiants présents dans nos amphis pour assister aux cours théoriques diminue d'année en année, donc je pense que oui. Alors en fait, il y a une double convergence, en fait. Le point de vue de l'étudiant, et notamment de l'étudiant de P1, puisque moi j'ai vécu ça assez récemment, il y a 2 ans avec mon fils. Donc la problématique de l'étudiant, c'est de développer une stratégie pour gagner en efficacité en optimisant son temps de travail. C'est ne pas perdre du temps et dans les transports et dans les amphithéâtres lorsque le chahut est organisé par les doublants, vous connaissez ça. L'enseignant est dans un amphithéâtre et le cours retransmis simultanément dans 2 ou 3 autres par des moyens techniques qui sont parfois de qualité moyenne. Et aujourd'hui, le budget représenté par le nombre de vigiles nécessaires pour maintenir le calme est assez impressionnant dans les universités. Et tout cela pour assister souvent à la lecture rapide d'un fichier PowerPoint qui sera déposé sur Internet. Donc la conclusion de ça, c'est que autant rester chez soi si les sources sont disponibles. Et puis, convergence, c'est la problématique de l'enseignant, au moins francilien, c'est-à-dire que un enseignement est diffusé à environ 15 000 étudiants qui appartiennent à cette université, répartis sur 9 sites, dont certaines sont situées en grande périphérie, c'est-à-dire à 20-25 km de Paris. Alors là, soit on a le choix de répéter 9 fois les mêmes cours en devenant ce que j'ai appelé un itinérant du spectacle, parier sur la télétransmission en imaginant que les cours soient diffusés en simultané sur l'ensemble des universités. Je dois dire que comme c'est déjà pas le cas à l'intérieur de ma propre université, mes collègues reproduisant le cours qu'ils ont fait à Bichat la semaine suivante à la Riboisière, et c'est pour ça qu'ils sont absolument liés au PowerPoint, parce qu'il n'est pas question d'aller ajouter un complément d'information à Bichat qui n'a pas été donné à la Riboisière. Donc j'ai préféré réaliser un support pédagogique numérique qui s'approche le plus possible d'un cours. Alors le cahier des charges était le suivant, associer son et image, reproduire grâce à l'infographie la mise en place progressive des structures anatomiques. Bon, j'ai pas choisi finalement la formule ouverte parce que, bon, on a la chance en anatomie que ça n'évolue pas d'année en année, ce qui n'est pas le cas en immunobiologie. Associer différents types d'images, scanner, IRM, dissection, des vues cliniques. Utiliser les animations 3D disponibles. Et fournir, comme vous l'avez fait tous, en complément un polycopier contenant le texte et les schémas. Et l'avantage, c'est évidemment d'apporter à domicile ou ailleurs, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, le contenu pédagogique. Alors, quel programme d'anatomie pour essayer de faire un concours sans recours? Je veux dire que j'ai opté pour l'ostéologie, qui d'une part est une base incontournable de l'anatomie et de l'imagerie. C'est un contenu précis, il y a peu de désaccords entre les anatomistes sur la terminologie, sur les limites de région. Et ça me paraît un objectif raisonnable pour un étudiant dans le cadre d'un concours. J'ai ajouté la cavité orale, bien sûr, pour présenter aux futurs chirurgiens-dentistes le cadre dans lequel ils vont travailler. Alors, ce document, c'est un DVD qui a une durée de 2h30, ce qui correspond, comme c'est un message qui est quand même compacté, cela correspond en gros à 5 heures de cours présentiel. Il y a 6 fichiers, donc la cavité orale et son cadre osseux, autrement dit quasiment le massif facial. C'est une fabrication artisanale parce que, bon, comme je l'ai souvent expliqué, il faut avoir la connaissance anatomique, mais aussi la connaissance infographique. Donc, finalement, quand on a un spécialiste à côté de soi, c'est pas lui qui va détourner les limites de la grande aile du sphénoïde. Donc, si on peut faire les deux, c'est du temps de gagner. Et je dois vous dire que, quand même, j'ai mis 1 an et demi à réaliser ce DVD et le temps de réalisation est de 1000 heures. Alors, c'est un produit un peu hybride, c'est-à-dire que c'est ni un cours enregistré, ni un ED, mais sans prétendre pouvoir reproduire, si vous voulez, l'examen direct d'une pièce osseuse que l'on a dans la main et que l'on peut observer sur toutes ses faces. C'était un peu l'idée quand même de ce produit. Donc, en complétant la représentation 2D habituelle par des approches volumiques, on est dans une discipline où le 3D... on en fait tous les jours, vous parliez de l'occlusion tout à l'heure, c'est évident. J'ai utilisé évidemment une banque de données, ça m'a permis aussi de présenter des images de dissection acquises au fil du temps pour illustrer les insertions musculaires, les trajets vasculaires, et bien évidemment des vidéos cliniques de la cavité orale pour découvrir l'organisation et les fonctions. Tout ça pour montrer que l'anatomie est à la base de l'examen clinique. Alors, matériel et méthode, un scénario, je pense que c'est le point de départ, l'adéquation, en fait, du texte et de l'image. Ensuite, j'ai enregistré une bande-son. J'ai travaillé principalement avec des outils Mac, photographie des pièces osseuses. Toutes ces pièces osseuses ont été scannées avec un protocole haute résolution. Seuillage des coupes, parfois j'ai extrait essentiellement les éléments dentaires. Reconstruction 3D, j'ai utilisé le logiciel Osirix qui est disponible sur Mac gratuitement. Un logiciel qui a été mis au point par des Suisses, qui est très, très bonne qualité. J'ai monté dans Final Cut Pro, j'ai exporté les images fixes et les colorisations Photoshop. Ça fait pas mal d'aller-retour finalement entre les fichiers, entre les différents logiciels. Après, ça a été compressé, différents codecs avec compresseur, et puis la finalisation avec DVD Studio Pro. Alors, la complexité parisienne, ce DVD constitue le programme exclusif d'anatomie du module spécifique du concours d'odontologie pour les universités UP5, UP7, UP13. Il est complété de 9 heures de cours présentiels d'anatomie cervico-céphalique dispensés par des anatomistes médecins pour UP11, UP12 et USQ. L'ensemble constituant le programme d'anatomie du module spécifique des concours d'odontologie et de médecine de ces universités. Vous voyez la disparité parisienne, hein, c'est-à-dire que ça a été mutualisé dans certains cas, pas dans d'autres. Et puis, comme je l'ai déjà dit, curieusement, l'université Paris 7 organise seule finalement les 14 heures de cours présentiels sans se référer au DVD. C'est un peu une anomalie en ce sens que les étudiants de P6 qui vont choisir odonto viendront l'année prochaine à Garancière. Donc c'est un peu dommage parce que, encore une fois, on n'aura pas un auditoire homogène. Alors, selon les performances des plateformes numériques des universités, ça a déjà été abordé, soit distribution du DVD à chaque étudiant, ce qui pose des problèmes de coût, de stockage, soit l'installation du DVD sur le NT, mais bon, là aussi, accès en streaming ou téléchargement. Sur P7, on est en streaming. Et puis, là, c'est au choix des universités. Certaines vont choisir finalement de faire des compléments d'information, soit en diffusant le DVD dans un amphi sans la présence du prof, soit en organisant des TD. En ce qui me concerne, pour l'instant, j'ai pas voulu, dans le cadre du P1, enfin du PACES, réaliser un forum de réponse aux questions, parce qu'il faut quand même savoir que sur 5 heures de cours, on a quand même assez vite fait d'épuiser les questions possibles. Donc c'est aussi une façon de se ménager de la réserve pédagogique, j'irais dire, pour poser des questions lors du concours. Évaluation, bon, ça se fera obligatoirement sous forme de QCM. Là, il y aura des disparités. Dans certains cas, les enseignants responsables m'ont demandé de poser les questions. D'autres se chargent de poser les questions sur le DVD. On a essayé de voir si c'était possible. On y est arrivé sur la moitié des universités parisiennes à regrouper le même jour les épreuves pour ne pas avoir à multiplier et ne pas épuiser rapidement le pool de questions. Hein ? Sur la totalité, maintenant ? Ah bon, bah très bien, alors. D'accord, ok, bah ça c'est parfait. Alors ça c'est une bonne nouvelle, ça tu vois, j'ai bien fait de venir. Alors, bon, c'est un produit, c'est vrai, qui porte mon nom, mais c'est aussi un travail d'équipe. J'ai utilisé des assistants d'anatomie qui ont contribué à la fois à la forme et aussi, à produire des documents, notamment des coupes scanners. Alors, voilà comment ça se présente. Donc on peut, effectivement, il y a, je le disais, un fichier qui n'a pas l'air de fonctionner là, mais je ne vais pas vous passer les PDF. Il y a des fichiers PDF qui constituent le polycopié avec l'imagerie qui est extraite du DVD. Je vais vous passer directement le DVD. Alors... Décrivons maintenant face par face l'os maxillaire, en commençant par la face antérolatérale qui soutient.
Là, normalement, il y a un bloc crânio-facial. Voilà.
Bon, j'ai même fait le jingle, mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens. La tête est composée de tissu mou, bordé d'une enveloppe cutanée, et de tissu dur de soutien et de protection constituant le squelette crânio-facial. Le crâne, issu du neurocrâne, contient et abrite l'encéphale, qui comprend le cerveau, le diencéphale, le cervelet et le tronc cérébral. La face, qui dérive du viscérocrâne, est organisée autour de l'extrémité céphalique des voies aérodigestives et loge les principaux organes des sens. Parmi les os de la face, les os maxillaires, par leur volume et leur situation centrale, occupent une place prédominante au sein du massif facial et entrent dans la composition des parois de ces différentes cavités. C'est pourquoi le massif facial est aussi appelé massif maxillofacial. Ainsi, les os maxillaires, droite et gauche, participent à la cavité orale en supportant les dents de l'arcade maxillaire, en bordant médialement le vestibule oral et en formant la plus grande partie du palais osseux. Ils contribuent par ailleurs à la formation de la paroi inférieure des cavités orbitaires, ainsi qu'aux parois latérales et inférieures de la cavité nasale. Enfin, ils entrent par leur face postérolatérale dans la constitution des fosses infratemporales et des fosses ptérygopalatines enfouies dans la profondeur du massif facial. L'os maxillaire est donc un os pair et non symétrique. Il y a ainsi deux maxillaires et une mandibule. La structure tridimensionnelle de l'os maxillaire a la forme d'une pyramide triangulaire au sommet tronqué, dont la base est représentée par la face médiale de l'os, encore dénommée face nasale.